Bonjour, bonsoir les joueurs, les joueuses, et on est à nouveau à Des Bretelles et des Jeux, édition 2018, salle de la Bourse et place de la Bourse. Je suis accompagné pour cette suite d'interview de Père Castor, aka Maxime.
Salut Flavien.
Et toujours absent car lui joue.
Voilà, président.
Président voilà. Cyrus, toujours absent.
Voilà.
Et donc pour cette nouvelle interview, on reçoit Nicolas Badou de Yokabaitsume. Salut
ça,
Nicolas.
Bonjour. Salut.
Alors Yokabaitsume, qui est spécialisé dans les jeux porteurs de licence.
À la base, oui.
Parce que vous avez commencé avec quoi?
On a commencé avec Naruto Shippuden, le jeu de société.
Ouais, c'est ça. Il y a combien de temps?
Il y a 3 ans, je crois.
3 ans, par là, ouais. Du coup, comment ça se passe le contact? Parce que c'est quand même une grosse licence, Naruto. Enfin, en termes de vente, en termes de connaissance du public, etc.
Déjà, le nom de votre structure, c'est le choix d'un nom japonais dès le début, c'était...
C'est Yoka by Tsume, parce qu'on fait partie du groupe Tsume. Tsume, c'est une grosse société luxembourgeoise qui fait des statuts de collection sur des licences animées principalement. Donc justement, Naruto, Dragon Ball, Saint Seiya, tout ce qu'on connaît. Donc à la suite de ça, on a ouvert la branche jeu de société, Yoka, qui veut dire divertissement en japonais.
Ouais, qu'on peut retrouver dans Yokai Watch, par exemple, ou Yokai no Mori. Yokai, c'est pour les Yokai. Il y a peut-être une étymologie commune, je ne sais pas.
Entre fantômes, ouais, parce que Yokai, c'est vraiment les fantômes.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et Yoka, tout simple.
D'accord.
C'est vraiment le divertissement, ouais. Le ludique.
D'accord, c'est ma connaissance du japonais qui est...
Limitée, la mienne aussi.
D'accord, on va éviter de s'aventurer là-dessus. Donc, Tsume, vous êtes une filiale de...
Voilà, Yoka est une filiale de la société Tsume.
D'accord, et donc vos fiches de paye, c'est par Tsume?
C'est par Tsume.
Ok, ça marche. Et Tsume est bien implantée, c'est une société originaire d'où?
Du Luxembourg.
Luxembourg, oui, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure. Si j'écoutais, ça se saurait. Et du coup, qui existe depuis combien de temps?
C'est une société qui a 8 ans maintenant.
Toi, t'as bossé dans Tsume avant de passer chez Yoka?
Non, j'ai commencé avec Yoka. Maintenant, okay. Je connais le patron de Tsume depuis 14-15 ans et donc... Forcément, j'ai participé à l'effort de voilà, la construction de la société, mais sans faire du jeu de société.
D'accord. Et alors, justement, toi, Yoka, ça arrive quand dans l'histoire de Tsume?
Alors, ça arrive 5 ans après. Bon, moi, personnellement, je mets fin à une petite carrière dans le jeu vidéo. J'avais monté ma boîte.
En indé?
Ouais, en indé. D'accord. Voilà, studio parisien de jeux mobiles. Et bon, j'avais un gros ras-le-bol de ce secteur-là. Je savais plus trop quoi
t'avais
faire.
T'avais sorti quelque chose?
Alors, j'ai fait des jeux DS, des jeux Wii.
Ouais.
Et donc ça, c'était à l'époque quand j'étais chez Mindscape, par exemple, qui n'existe plus. C'était un éditeur, un gros éditeur.
Ah, c'est connu, ouais.
Voilà. Et après, dans mon petit studio de jeux indé, on a fait des jeux iPhone, où il n'y a pas de gros succès à noter. À part peut-être Jazz Trump Journée, c'est un jeu de plateforme qui date maintenant, mais voilà, qui avait des petites récompenses, c'était sympa.
Et donc ça, donc t'en avais marre de ce secteur? Pourquoi?
Ouais.
Parce que...
Complexité, développement...
Contraintes des plateformes.
Contraintes techniques qui évoluent trop vite, qui...
voilà,
qui
sont des trouver une place dans le marché, c'est chaud.
Et ouais, la place, ouais, elle était... Sachant que quand on a commencé cette société, il y a 7 ans, on n'avait pas l'appui des banques qui croyaient pas du tout en ce secteur, ce genre de choses, quoi. C'était vraiment compliqué.
Ouais, ouais.
Donc voilà, il y avait plein de projets, mais c'est des gouffres, en fait.
Donc ça râle bol, donc tu te dis bon j'arrête le jeu vidéo.
Ouais, et par une re-rencontre justement du patron de Tsume où on voit qu'on partage cet intérêt de jeu de société. Mmh. On se connaissait très bien mais pas cette passion
Tsume
commune.
Marchait déjà bien en termes de vente parce que c'est vrai que c'est le côté geek, pop, culture, etc. Depuis 5, 6, 7 ans on voit réémerger tout ça, que ce soit avec les Lego ou non. Avec un vrai attrait du public, quoi. Donc, Tsume, était déjà en bon lancement, quoi.
Oui, ça y est, ouais. Il a fallu 2-3 ans pour lancer Tsume, mais avec les produits qui ont été faits, ça c'est.
D'accord. Donc, quand c'est arrivé, Tsume pouvait se permettre de diversifier son activité.
Ça, de lancer, voilà, un nouveau pôle. Et donc, ça a été le jeu de société en premier. Puis, l'année suivante, ça a été les fringues. On a lancé une gamme de vêtements de mode, toujours sur des produits à licence.
Donc, c'est quoi, c'est de la mode geek?
C'est la mode geek, ouais. C'est-à-dire qu'on peut...
On a les habits orange de Sangoku?
Eh ben, justement, on est habillé, par exemple, pour Naruto, on a des vêtements Naruto, où seul le geek va repérer que c'est un vêtement geek.
Un peu comme les t-shirts métal, tu vois. En l'occurrence, j'en porte un qui n'est pas métal, mais peu importe, c'est, tu connais ça, mais en même temps, t'as pas écrit Sodom en grand sur ton t-shirt.
C'est exactement ça.
Alors, le petit signe distinctif.
Voilà. Et à chaque fois, ça dépend de la licence, voilà. Il y a un t-shirt Goldorak où, il est tout noir, donc c'est pas du tout penser aux références Goldorak, blanc, bleu, rouge, jaune. Il est tout noir, mais il y a le symbole très léger, et derrière, la petite tête de Goldorak, tout discrète. Et quand on croise quelqu'un qui a ça, et si on connaît la licence et qu'on en est fan, on fait « Ah !» et on Il y a un contact qui se fait directement.
Et là, il y a un mec qui dit, oh purée, t'as un t-shirt Daft Punk.
C'est là, oh.
Et donc ça, c'est une autre marque que Yokai. Enfin, c'est
ouais.
quelque chose
Baitsume, j'imagine. C'est une branche qui s'appelle Iki Baitsume, ouais.
Ok, ça marche. Et donc, il y a cette branche vêtements. Et donc, la branche jeu de société oui. pour laquelle tu arrives.
Bah c'est ça, donc Yoka, donc j'arrive. On se lance dans le projet Naruto, dans lequel on avait déjà les droits pour faire des statues. Donc on faisait des statues et des figurines de collection.
Donc au niveau
et
de
ça,
la,
on les retrouvait où dans les boutiques spécialisées
Des boutiques, ouais, des boutiques spé sur pour les figurines, aussi. Sur notre shop en ligne, parce que c'est des statues de collection qui valent entre 300, 600, 1200 euros, 1500 là dernièrement. Ouais. C'est des statues de luxe, oui, effectivement, et elles sont sold out en moins d'une journée. Donc c'est limité en nombre de pièces, il y a 500 pièces, 1000 pièces, ça dépend des licences. Et en fait, voilà, les gens se ruent dessus. Donc, elles sont plus disponibles. La plupart des statues, d'ailleurs, aujourd'hui, toutes nos statues de collection, je sais pas, il y en a une cinquantaine actuellement, si je dis pas de bêtises, elles sont toutes sold out.
Alors, la question est naïve, mais vous les ressortez pas? Ou volontairement, vous créez ce...
C'est ça, ouais.
En fait, cet aspect collection?
Oui, elles sont limitées. Elles ont des plaques numérotées. Si on les ressortait,
ouais.
ce serait pour les clients qui ont acheté, enfin... Un désaveu,
ouais,
quoi. Enfin,
ouais, c'est ça, ouais. Le côté collection passe forcément par la limitation, quelque part.
Bah oui, aussi.
Sinon.
Aussi, il y a la qualité de la pièce, qui plaît. En général, voilà, toutes les statues ont du succès par leur visuel, mais aussi le fait qu'elles soient limitées.
Du coup, le client a la garantie d'acheter un truc limité qui ne ressortira pas.
C'est ça. Ouais.
Comme la Nesmi. Ah non. Puisqu'ils vont la ressortir. Donc, pour revenir sur le jeu de société, donc Naruto, ça simplifie du coup la question des droits, c'est ça?
C'est ça. En tout cas, on a déjà le contact, on connaît très bien les ayants droits, que ce soit les ayants droits français ou les ayants droits japonais.
Mais il n'y a pas déjà des jeux de cartes sur Naruto?
Alors, il y a des jeux de cartes à collectionner. Il y a eu un jeu de cartes à collectionner.
Après, c'est peut-être pas des droits exclusifs.
Voilà c'est ça. Ça dépend. Alors, déjà, est-ce qu'ils sont encore actifs? Des droits, on les signe pour 3 ans, 5 ans, ça dépend des droits. Ça
dépend des contrats.
Et puis après, ça dépend aussi des produits. Donc, un jeu de cartes à collectionner ne fait pas concurrence ou l'un ou l'autre avec un jeu de plateau, qui est un jeu d'aventure avec des petites figurines.
Tu peux toucher des publics différents. Ouais. Ouais. Et alors, toi, justement, Naruto, donc, qui est quand même vraiment une licence forte. On sait qu'en France, le manga, l'animé est vachement important dans la culture française. Je crois que c'est le deuxième pays consommateur, c'est ça, si
c'est
je dis pas d'annerie.
Après le Japon.
Après le Japon. Voilà, les cafés spécifiques et tout, bon, peut-être à Paris, mais pas que. Je pense au Kawaii Café ou quoi. Enfin, c'est prolifique, quoi. Toi, tu baignes là-dedans depuis longtemps? Dans cette culture-là? Dans cet amour du Japon et
oui,
tout?
Oui, c'est ça, ouais.
Ouais, t'es passé par au Club Dorothée, voire avant.
On est de cette génération-là. Tous les gens de la société sont de cette génération-là, quoi. Des fans de manga de toute manière.
Dragon Ball Fighter Z. Alors,
après moi comme tu dis, le jeu vidéo, je m'en suis éloigné. Et j'ai testé, j'aime beaucoup le jeu, mais je suis pas du tout assez compétitif pour jouer. Donc.
Ouais, moi non plus, je suis nul à ça, mais le côté Madeleine de Proust est super jeu. Ouais.
C'est le jeu qu'on aurait voulu petit, quoi.
C'est ça, avec toutes les animations et même des animations qui rappellent des cases des enfin c'est assez fou. Et donc toi tu baignes là-dedans depuis des années et du coup le Tsume fait des figurines là-dedans, toi c'est assez naturel, donc Naruto. Pourquoi Naruto plutôt que parce qu'il y a les droits, tu disais?
Ouais, parce qu'on a pu avoir les droits sur celui-ci sans trop de problèmes et parce que c'est une licence aussi qui nous a porté. En fait, on a commencé Tsume avec Naruto aussi, avec une statue de Gaara, personnage de Gaara. Et donc aussi, voilà.
Quoi, c'est un chat hein.
Gaara? Non. Gaara, c'est un humain. C'est un porteur de démons. C'est comme Naruto. Naruto qui porte un démon en lui qui est ultra puissant. Bah Gaara aussi. Donc, c'est un rival au début de l'aventure et puis un allié par la suite.
Et donc ça c'est le début effectivement avec Naruto. Je sais pas comment ça a fonctionné. En tout cas, on avait vu au niveau de la communication, c'était assez présent, quoi. Même chez les joueurs de jeux de société entre guillemets traditionnels, parce qu'on pourrait dire ils lancent ça pour toucher un public qui aime la pop culture et les mangas et blablabla. Mais en fait, le public jeux de société, vous avez aussi communiqué vers lui, quoi. Pas juste dans le côté objet pop culture japonais, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah en fait, déjà, on a voulu faire un jeu. Donc c'était pas juste un produit comme on pourrait taguer un Monopoly Naruto.
Ouais, c'est pas
un
juste un
ça.
Produit dérivé.
Voilà.
Ouais.
C'était que ce soit jouable aussi par ceux qui ne connaissent pas Naruto. Donc, c'était notre objectif.
Il y avait des contraintes de la part de l'éditeur japonais. Ouais.
Pour Naruto, non, ça va.
Pour le type de jeu ou des contraintes scénaristiques à respecter.
Alors, c'est ça. Oui. Alors là, par contre, c'est des contraintes.
Assets. Enfin, on parle pas d'assets dans le jeu de société.
Moi si, parce que c'est mon langage. Mais effectivement, les illustrations, tout ça, tout est charté, tout est très précis. Si j'ai besoin d'illustrer une carte par une technique précise, il faut que je la demande à l'ayant droit en lui disant je voudrais cette image, est-ce qu'elle existe ou pas.
Et du coup, ils vous ont mis à disposition des banques d'images, banques d'illustrations.
Quand on signe les droits chez quelqu'un, on a toute une bibliographie en fait qui correspond à toutes les icônes, des images, des personnages. Des codes couleurs, etc.
Et tu peux quand même faire un truc spécifique sous validation.
Oui, voilà, tu peux. Alors, soit en payant l'ayant droit, en lui demandant une nouvelle illustration, un nouveau personnage, une nouvelle situation qui n'existe pas, ce que nous on a dû faire, parce qu'on transforme un peu l'histoire, forcément on va changer le, on revit pas l'aventure telle qu'elle existe, on revit l'aventure en la changeant, en essayant de faire bouger les choses. Donc on a des petites assets, des petites illustrations dont on avait besoin, et à côté de ça ils sont quand même assez vigilants sur l'histoire, les noms des personnages, les noms des techniques. Faut que ça corresponde à 100% à leur univers.
Et donc tu disais effectivement faire un jeu qui fonctionne et pas juste un produit dérivé, ça passe par justement le game design, hein.
Oui, c'est ça.
Donc vous travaillez en interne ou bien vous avez fait appel à des auteurs externes?
Alors pour au début on travaillait en interne. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on avait un rythme de production très light, quoi. Naruto c'est un an et demi de développement et on a sorti ça.
Ouais, vous n'avez pas cette pression-là de il faut qu'on gagne de la thune avec, etc.
Voilà, c'est qu'à l'assise de la société qui nous a permis de bien prendre notre temps. Donc c'est un développement interne. À la suite de ça, comme plus on avance, plus on a de jeux. Et là, maintenant, c'est moins en moins un interne et plus des auteurs.
Il y a Théo Rivière qui est passé chez vous quelques semaines, quelques mois, je crois, avant de basculer chez Repos, puis chez Kaedama. Et c'est quand il sortait de chez Yellow, justement. Lui, je crois que, enfin, le discours qu'il avait, en tout cas, c'était justement aussi le fait de retrouver un truc un peu plus, justement, au niveau du développement, un peu plus libre, peut-être.
Ouais, ouais, total.
Lui, il était impliqué dans Naruto ou c'était après?
Il est arrivé juste après.
Ouais.
Il a fait des protos qui nous ont permis de démarcher des endroits.
D'accord.
Donc ça a pas abouti. Enfin, on a aucun jeu de Théo qui est sorti, mais voilà, il avait bossé comme ça en secret sur Bob l'éponge. Il avait bossé sur d'autres licences.
Yes. Et alors Naruto, je sais pas à quel point ça a fonctionné du coup ce jeu au niveau des.
Alors
des
ça, on s'en est très bien sorti, sachant que c'était notre premier jeu. On découvrait le marché qu'on ne connaissait absolument pas. On a fait un tirage de malade. Un premier jeu, enfin bref.
C'était combien? Parce que c'est vrai qu'on
pour nous c'était 20 000.
Et 20 000, ouais, effectivement, ouais, c'est un gros tirage. Ouais.
Après c'est international, c'est-à-dire qu'il y avait 20 000 dons, dons de l'anglais, etc. Et en fait on a eu une bonne distribution à l'international.
Yes.
Voilà. Et en France c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais.
Par contre ça part au compte-gouttes. Voilà, c'est toujours demandé en fait, parce qu'il y a toujours des fans de Naruto qui découvrent le jeu, qui disent tiens voilà j'aime bien Naruto. Maintenant en termes de gamer, on s'est aussi confronté au public joueur qui est en français. Voilà, qui va renier la licence déjà au premier abord.
Et quelque chose qui dit oh là un jeu licence ça va être un jeu de merde,
c'est ça.
C'est alors, un peu les travers qu'on peut ou les craintes qu'on peut avoir dans le jeu vidéo.
Mais c'est pas ça vient pas de nulle part aussi, c'est que pendant longtemps que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de société, on peut parler des Monopoly, c'était juste on colle une licence, le jeu c'est de la merde mais ça va faire vendre. Donc c'est vrai qu'il y a plus cet historique que les joueurs ont encore en tête et c'est parfois difficile de se défaire. Et c'est vrai que pour ceux qui essayent justement de faire un jeu intéressant qui soit quand même une licence.
Ouais, mais pour un ayant droit qui connaît rien au, je sais pas, au jeu vidéo ou jeu de société, il a une référence qui est connue du grand public et c'est aussi rassurant pour lui, je pense.
Ouais, bien sûr, mais pour
un ayant droit, tu lui proposes de faire un Monopoly avec sa licence, il sera pas.
Ouais, bien
plus
sûr, mais justement
pour
le public joueur qui va parler sur Internet et tout, il va être très bruyant et en général vers le négatif, quoi, j'imagine.
Ça, ouais. Après, nous, on n'a pas trop subi ça, mais enfin, ne serait-ce que par l'acte d'achat ou d'intérêt. Voilà, c'est se mettre à la place d'un client, il dit bon on me propose Naruto ou Abyss. Bon, Abyss, c'est un exemple. Instinctivement, je vais vers Abyss, quoi, univers original, mécanique, un auteur connu, etc. Voilà, donc forcément. Donc on est confronté à ça, mais on a fait avec. Par contre, à l'international, il n'y a pas du tout ça.
D'accord,
donc,
c'est une spécificité du marché français. Et du coup, au niveau du public, est-ce que vous avez touché plus des joueurs ou justement ça a touché un public qui est plus qui s'est mis aux jeux de société finalement parce qu'ils aimaient la licence?
C'est là où c'est principalement 95% des fans de la licence.
D'accord. Ouais.
Voilà. Okay. Et c'est là où on se dit finalement, on a travaillé un jeu de société qui est jouable par tout le monde, mais c'est eux qui sont allés vers le jeu. Enfin, c'est.
Mais ça ramène des gens aux jeux de société, quoi.
Et par contre, on a ramené des gens aux jeux de société.
Ils jouent peut-être maintenant à Abyss, justement.
Ouais, je leur souhaite.
Du coup, au niveau de comment ça touche les pays, il y a des pays où ça se démarque particulièrement.
Ouais, les États-Unis.
Les États-Unis,
l'Italie.
Le Japon, vous avez.
Le Japon, on n'a pas les droits pour vendre le jeu au Japon.
Ok. Voilà. Japon, c'est une spécificité du contrat qui dit que.
On a certains territoires du monde.
Parce qu'ils avaient déjà des jeux en place
Non, parce que tout ce qui se vend au Japon est fait au Japon quasiment, on va dire ça.
D'accord. Et donc, ça, c'était le premier jeu, effectivement, le coup d'essai. Depuis, vous avez fait quoi?
Alors, on avait fait Terraform Mars sur la licence, sur l'animé où ça expose des cafards. On a fait un jeu sur Dreamland. Un petit party game, c'est un manga français, pour le coup, qu'on a fait en collaboration. Et là, j'ai un autre auteur, Michel Pinon, qui avait bossé avec moi.
Okay.
Voilà. Donc ça, on a fait Killing Time, c'est un jeu de cartes. Alors là, on n'est plus sur une licence, on est sur un jeu où on a bossé avec Dedo, qui est un humoriste du Jamel Comedy Club, voilà. Et on a fait un jeu de cartes de questions-réponses à la con, un peu à la limite ou Blanc Manger Coco, qui fait référence à ça.
Ou à Cards Against Humanity, autant citer les premiers.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc ça c'était ce qui est sorti durant 3 ans de développement
chez Yoka.
Et depuis, un an, là on fait des jeux originaux, enfin sans licence, avec Mao, qui a été le premier jeu qu'on a sorti, qu'un auteur belge.
Rien à voir avec le dictateur chinois.
Avec un auteur belge, Vincent Joassin. Yes. C'est un jeu de cartes. C'est cool, franchement j'adore. Et depuis Arcanes, voilà, toute une.
Et donc là, sur des bretzels et des jeux, justement, Naruto, on le présente plus ou quoi? C'est non, ouais, qu'est-ce que vous présentez?
Alors on présente Arcanes, c'est un jeu de tuiles de Benoît Miclotte, c'est un auteur belge également, illustré par Régis Torres, donc illustrateur de King of Tokyo, par exemple.
Il y a plein de choses avant.
Et donc voilà, c'est un jeu de tuiles, un jeu de stratégie assez familial, plutôt sympa. On a Oro del Oro, qui est un jeu de pirates. Alors là, c'est purement familial. On pose des tuiles pour faire progresser un meilleur d'un domino en fait sur la table, et on gagne des trésors, on s'enrichit, puis on fait des coups fourrés aux adversaires en leur volant des pièces, en etc. Chaque temps, il y a un jeu One Punch Man, donc là un jeu à licence. Mm. Donc voilà, sur un plus petit format que Naruto, où bah on va jouer les héros, on va combattre des vilains, et en fait tous les joueurs doivent vaincre les vilains avant les autres joueurs et avant Saitama, qui lui va arriver et éliminer le vilain en un coup de poing. C'est le pitch de la série.
Ouais.
Et en dernière petite nouveauté, j'ai Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiac, qui est un jeu de deck building.
Alors,
donc là, il est montré sur l'event, enfin il sort en septembre, il est montré juste à certains joueurs qui me le demandent ou qui sont intéressés par ce... Je vois qu'il y a un intérêt pour ce...
Vous avez commencé quand même à communiquer dessus pour que les joueurs puissent commencer à demander là-dessus.
C'est ça.
Et alors justement, là tu dis qu'on commence à faire des jeux originaux... Il y a encore des jeux à licence, hein, tu les as cités, mais comment on fait quand on s'est finalement construit une image de jeu à licence en essayant en plus de défendre le côté c'est pas parce qu'il y a une licence que c'est pourri, et derrière de s'écarter de ça, est-ce que ça passe peut-être par la création d'une autre entité ou d'une autre gamme, je sais pas.
On l'a pas réfléchi comme ça en fait. Nous, on n'a jamais voulu défendre quoi que ce soit. Voilà, il y a un jeu, on voulait tester ce marché et on pensait qu'il y avait un intérêt, et il y a il y a des joueurs qui sont intéressés par ça. Mais en fait, c'est pas une envie, c'est principalement sur un festival Made in Asia, je crois, en Belgique, où je suis tombé sur Mao. J'ai vu le jeu et j'ai voulu le faire. Et on s'est pas posé la question.
T'es libre là-dessus. Enfin, je veux dire, toi, ta position chez Yoka, c'est.
On n'a pas de position.
D'accord, mais je veux dire,
mais à la base, je suis game designer, enfin.
D'accord, mais donc quand tu vois un jeu comme ça, t'as pas à t'en référer à Tsume.
Non, en fait, on a une totale confiance. Tsume, enfin, c'est une branche assez libre, si ce n'est dans le budget, quoi. Mais même quand on est assez, avec j'ai un collègue, et on fait ce qu'on veut tant qu'on le fait bien. C'est un peu ça.
D'accord.
Et en voyant le jeu, j'ai voulu le faire. J'avais parlé à mon collègue, lui aussi, et on l'a fait. On s'est pas demandé si on avait le droit ou pas en termes de Yoka de le faire ou pas. Voilà, ça nous a ouvert une nouvelle branche, mais qui reste. Et en fait, la seule distinction, c'est nos distributeurs en fait.
Okay.
Il y a deux distributeurs différents,
un pour qui les licences et sans licence.
C'est ça.
Donc c'est qui?
C'est Novalis pour les jeux sans licence.
D'accord.
Donc la filiale d'Asmodée. Et Abyss Corporation, Abyss Corp, pour tous les jeux à licence.
Qui est beaucoup moins connu pour le coup des joueurs de jeux de société en termes de.
Pourtant, ils distribuent Clank.
Ouais, d'accord. Voilà. Okay.
Donc pour
Cyrus, notre cher président à Chronique.
Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu vois une différence dans les retours, dans la perception du public entre justement les jeux à licence ou non, que ce soit sur festival ou que ce soit de manière sur internet ou quoi?
Ouais, ça va dépendre des festivals. Alors, en tout cas, pour les aficionados de manga, là, on a pu tester ça dans un festival privé qu'on a fait avec 600 personnes. On a été assez étonné de voir que nos fans de collectionneurs de manga, de licences, de statues, étaient tout aussi intéressés par Senseiya, Chevalier du Zodiac, que par Mao ou Arcane. Ça, il n'y a pas de distinction. Pour eux, c'est un jeu. Et,
de leur côté, du côté du public qui, de toute façon, était prêt à accepter la licence, ça allait. Et du côté de ceux qui, justement, disaient « Oh là là, licence caca
ah, !» Ben, ça va dépendre de la cible, quoi. Les cibles familiales. Donc, celles qu'on voit, par exemple, à Bretzel, c'est-à-dire des gens qui sont qui viennent juste pour se balader, que des vrais joueurs qui vont à Cannes et qui passent 3 jours à Cannes, par exemple. Là, on a un intérêt de deux. Il n'y a pas de distinction.
Ouais,
par contre, le vrai joueur, c'est sûr que, dans un premier temps, il va aller se pencher vers un jeu sans licence. Mais très vite, en fait, si notre table est libre, il va vouloir tester l'autre quand même. Donc c'était ça. C'est une manière aussi. Ça, c'est l'inverse. En fait, on disait.
Après, ça peut être clivant aussi une licence.
Ouais,
si
mais
t'as
là,
quelqu'un
là,
qui est pas du tout intéressé par un univers.
Ah ouais, bien sûr. Ouais,
mais un univers original, c'est la même chose en fait. Si je suis pas intéressé par les chevaliers, est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu de chevaliers? En fait.
Ouais.
Ah ouais, c'est
étonnant. En fait, souvent, on la connaît pas, la licence. Quelqu'un qui n'apprécie pas One Punch Man la connaît pas en fait.
Et ce que tu disais là, effectivement, c'est que. A contrario, parfois, les licences, on peut amener des joueurs hors jeu de société vers le jeu de société et les faire jouer à Mao ou d'autres. Et là, justement, le fait de venir tester un jeu hors licence, il se dit, tiens, il y a de la place là, peut-être que je vais aller... Ah, et finalement, c'est pas si pourri, quoi.
Ouais. Voilà. Et en fait, après, alors, est-ce qu'il y a acte d'achat et tout, on n'en est pas là. Donc ouais. Ça, c'est appréciation et puis vouloir tester quelque chose d'autre. Ça, c'est assez, ouais. assez étonnant. Hein.
D'accord. Et donc là, dans le futur, tu parlais des Chevaliers du Zodiac, One Punch
ouais.
Man.
Ouais. Et en fait, Dragon Ball.
Dragon Ball Z.
Voilà. Donc, c'est un jeu de figurines, de duel, de figurines. Qui n'ont donc, beaucoup de temps de développement à deux.
Ouais.
Voilà, il y aura peut-être un mode 4 joueurs, mais bon, là, pour l'instant, on règle le mode à deux et c'est déjà du taf. Voilà, en termes de
grosse
licence.
Grosse licence, là, pour le coup.
Ouais, très grosse licence, donc très gros travail, et puis la licence est très vigilante.
Donc, vous partez, vous envisagez un financement participatif?
Non. Enfin, on l'a envisagé, non, bien sûr.
Ouais. Mais
en fait, le
pour le
au
jeu
Japon,
à deux, c'est aussi compliqué, peut-être.
Oui, c'est compliqué. Et puis au Japon, ils sont pas friands de ça, en fait. Pour eux, si on parle par exemple de Kickstarter, c'est péjoratif un peu, c'est on demande de l'argent d'un truc qui n'est pas sorti, c'est pas dans la mentalité japonaise déjà. Et en fait, si on croit assez au notre jeu, on n'a pas besoin de Kickstarter. Voilà comment ils réfléchissent.
D'accord.
C'est assez compliqué de
et donc, comme il y a effectivement le regard de la des ayants droit, et ben ils ont le pouvoir comme on en a parlé sur notre interview avec David Pick sur Games Workshop, ils ont le pouvoir de dire OK, vous avez tel contrat,
pas de caisse,
pas
de
participatif.
C'est ça. Ah ouais.
OK. Bon ben donc ça c'est un gros morceau quoi.
C'est un gros morceau, puis ça change le jeu aussi. Parce que forcément, on réfléchit pas à un jeu de la même façon s'il est sur KS ou pas.
Bien sûr.
Le contenu de la boîte, la façon dont on va. Voilà,
le stretch goals.
C'est ça.
Et au niveau des figurines, là, vous partez sur qui? Sur Goku, forcément, j'imagine.
Alors, ouais, c'est tout sur l'arc 1. Donc, dans la boîte, il y a 11 figurines.
L'arc 1.
Alors,
tu veux dire,
c'est
Dragon Ball ou Dragon Ball
C'est
Dragon
Ball
Z.
Dragon Ball Z. Et l'arc 1, c'est l'arc Saiyan, Vegeta, Nappa, Raditz. Et puis tous les Z-Fighters.
Et donc, il y aura pas que deux figurines qui s'affrontent. Et
ah non, il y a 11 figurines dans la boîte et on construit son équipe comme on veut avec un barème de points, comme un peu la Crossmaster Arena si je pouvais le comparer.
D'accord.
Et voilà.
Et c'est un jeu quel format plutôt en termes de durée, je veux dire.
C'est des parties d'une demi-heure à peu près.
Une demi-heure, ouais. Ok. Et donc tu vas forcément affronter par exemple, je sais pas, Goku, Piccolo contre Raditz, Nappa, etc. Ou bien tu peux faire.
Ah, tu peux mélanger les équipes.
Comme dans les jeux vidéo, tu pouvais.
C'est vrai. J'ai cité tout à l'heure Dragon Ball Fighters. Tu peux faire une équipe. C'est donc 3 contre 3. Tu peux tout à fait mettre qui tu veux dans ton équipe de 3.
Ouais. Alors après, il y a des termes d'affinité aussi. C'est-à-dire que si on met.
Et là, c'est le travail du game designer, quoi.
Voilà, si on met une affinité. Enfin, si y a, tu sais pas, Tenshinhan, pour ceux qui le connaissent, et puis Shao Tzu, le petit bonhomme qui l'accompagne, si on les joue ensemble, ils ont. En gameplay, il y a une affinité. Voilà, une affinité. Donc, forcément, les jouer séparément, ça a un peu moins d'intérêt. Maintenant, on peut.
Sachant que dans le manga, ils sont déjà pas très bons, alors.
Attends, on parle de Yamcha. Enfin. Ouais, bah, écoute, du coup, gros truc. Et au niveau des assets, c'est pareil, au niveau des figurines.
Ouais.
Ça se fait comment?
Au niveau des figurines, nous, on les sculpte en interne. C'est-à-dire qu'on a, comme on a toute la chaîne de production de statues et de figurines. Donc, on utilise nos sculpteurs 3D.
Ouais.
Et on produit tout en interne jusqu'au fin du prototype, quoi.
Et c'est vu comme un produit qui se voit comme être de luxe, donc quand même relativement cher avec des figurines luxueuses, ou bien vous essayez de faire justement plus, je sais pas, enfin je sais pas du tout, là c'est sans doute trop tôt pour parler de prix de toute façon vu que c'est du développement.
c'est encore un petit peu tôt, non on essaye d'en faire un jeu quand même grand public.
Ouais d'accord. Voilà.
Les boîtes seront pas numérotées.
Non les boîtes seront pas numérotées.
Mais les figurines dans les boîtes peut-être. Ok, bon bah des beaux projets et un petit message, n'hésitez pas quand même à essayer les jeux à licence avant de juger.
Oui, c'est vrai.
De manière générale. Bah merci. Une question traditionnelle.
T'as déjà mangé ta bretzel aujourd'hui?
Et je n'ai pas encore mangé de bretzel, non. J'aimerais bien d'ailleurs. Ouais.
Avec ta demi-tarte flambée. Très bien. Bah merci en tout cas.
Merci
bonne
de ta
fin de festival.
Merci à vous.
Et puis
et à bientôt.
Ciao.
Salut. Alors, pour laisser micro, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vas manger à midi? Qu'est-ce que tu vas manger à midi?
Alors, je vais manger une demi-flammkirche qui m'attend.
Une demi seulement?
Mais ouais.
Oh,
pourquoi une demi, là?
Parce qu'on se met une race le soir et donc le midi, on fait léger, quoi.
Ah ouais, d'accord.
Tu parles d'hier soir?
Ah, hier soir, c'était violent. Hein.